France Info.
Bonsoir, un mois de janvier détox, mais pas des taxes. L'Élysée annonce que la suppression de la taxe d'habitation pour les plus riches sera sur la table du grand débat qui démarre dans une semaine. Bruno Le Maire avait pourtant précisé ce matin qu'il fallait aller au bout de la suppression. Il y a du flottement fiscal dans l'air. La cagnotte de la discorde, celle qui a permis de collecter des fonds en soutien aux boxeurs de gendarmes, a été clôturée. Son lancement au moment même où Édouard Philippe présentait ses mesures pour renforcer l'ordre public aura suscité quelques émotions. Le contexte est-il favorable au Rassemblement national en vue des européennes ? L'ancien ministre Thierry Mariani franchit officiellement le pas en se ralliant demain à Marine Le Pen. Carlos Ghosn va-t-il rester en prison ? L'encore PDG de Renault s'est dit faussement accusé pour sa première comparution devant un tribunal à Tokyo. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous Marion Mourgue.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Grand reporter au Figaro, partenaire des Informés. Avec nous également, bonsoir à vous Hélène Hamel.
Bonsoir Jean-François.
Associé de l'agence Plead, spécialisée dans le conseil en stratégie de communication. À mes côtés, Thomas Clé. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Jean-François.
Professeur de droit à la Sorbonne, Université Paris 1. Et avec nous, bonsoir à vous et bienvenue Mathieu Niango.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole d'Anou, la démocratie. Alors je précise, hein, c'est un mouvement politique qui défend des propositions de rénovation de la démocratie française. J'ai tout juste, c'est ça ?
C'est ça.
Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. C'est la cacophonie du début de la semaine, la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des contribuables les plus riches, je cite, sera bien sur la table lors du grand débat. C'est ce qu'a annoncé en fin de journée l'Élysée à l'agence France Presse. Et si les Français nous disent qu'ils n'en veulent pas, eh bien nous sommes prêts à étudier le sujet, a même précisé la présidence de la République, histoire de clamper, si je puis dire, les déclarations quelque peu ambiguës de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, après avoir ouvert le débat dimanche, susceptible de braquer les contribuables concernés, a semblé faire machine arrière ce matin.
Les Français auront à se prononcer dans le débat. Mais ma position, c'est qu'il faut aller au bout de la suppression de la taxe d'habitation. Je le dis depuis septembre 2017. Nous avons engagé la suppression de cette taxe d'habitation. Moi, je souhaite que nous allions au bout de la suppression de la taxe d'habitation.
Marion Mourgue, donc c'est Bruno Le Maire qui rectifie Bruno Le Maire, lui-même rectifié par l'Élysée.
Exactement. Donc en gros, on ne comprend plus rien, si ce n'est que c'est cafouilleux et qu'à la fin, on ne sait pas qui va payer et qui ne va pas payer. Dimanche, Bruno Le Maire donne une position qui semble assez claire et qui est finalement celle de l'Élysée aujourd'hui en disant cette taxe pour d'habitation pour les 20%, les derniers les plus aisés, on va le mettre sur la table, on va le mettre au menu des discussions du grand débat. À la limite, c'était clair. Et puis, il y a le revirement ce matin de Bruno Le Maire. Déjà, on n'a pas bien compris. Ensuite, Bruno Le Maire, son équipe, envoie dans la journée un mail d'explication.
Il y a plusieurs Bruno Le Maire.
Alors, peut-être. C'est peut-être ça l'information.
De Thomas Clé, oui.
Mais on a un mail d'explication de son équipe dans la journée pour nous détailler précisément ce qu'il a dit à l'émission, un verbatim très clair de ses propos. Donc, ça donne l'impression qu'il y a une sorte de rétropédalage. Et puis là, l'Élysée qui s'en mêle. Et tout ça par médias interposés. Et donc, vraiment, on ne comprend plus. On a envie de dire, mais mettez-vous autour d'une table, discutez, puis ensuite vous nous dites.
Thomas Clé, comment expliquer ce revirement, si je puis dire ?
Ben justement, je ne sais même pas si c'est un revirement, puisqu'on a du mal à suivre la ligne. Donc, on ne sait pas un revirement par rapport à quand ? Par rapport à hier ? Par rapport à avant-hier ? Par rapport à ce matin ? C'est vrai que ce n'est pas clair. Mais au fond, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave que ce soit pas clair ? Il y a un débat qui naît à partir de ces 20% des contribuables les plus riches. Alors 20% les plus riches, si j'ai bien compris les chiffres que j'ai lus, c'est à partir de 2500 euros de revenus pour une personne seule.
Pour un célibataire.
Pour un célibataire, pour
mensuel.
Mensuel. Est-ce qu'il faut les exonérer, ces gens-là, de la taxe d'habitation ou pas ? Après tout, pourquoi ne pas mettre ça dans le grand débat ? Il faut bien qu'ils mettent des choses dans ce grand débat. Donc, c'est une question qui, à mon avis, peut opportunément nourrir le grand débat qui va s'ouvrir.
Hélène Hamel, le gouvernement ne parle pas d'une seule et même voix. Pourtant, le sujet fiscal est quand même très sensible, surtout par les temps qui courent.
Oui, bah c'est évident que là, c'est un cafouillage de communication. En tout cas, ça a été perçu comme tel. Ça nous fait penser un peu au cafouillage qu'il y avait eu à Matignon sur le « on renonce à renoncer avant les fêtes ». Et on ne comprend pas très bien où l'on va. Ce que l'on sait quand même, c'est que dans le programme du candidat Macron, à la base, il y avait l'exonération de la suppression de la taxe d'habitation pour ces 20 personnes, ces 20% de personnes les plus riches. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Il y a eu des hésitations aussi du côté du président de la République. Donc, ça ne m'étonne pas, ce cafouillage.
Mathieu, ah pardon,
juste Marion sur Brogue. Les 20% les plus aisés, c'était pas dans le programme de campagne d'Emmanuel Macron.
Non,
et justement, ça a été mis sur la table après parce que ça risquait d'être toqué par le Conseil constitutionnel qui disait il faut une égalité de tous les citoyens.
Le programme, c'était les 80%.
Hein. Exactement. Oui, pardon, ce que je veux dire, 80%, supprimé pour les 80%.
C'est un cafouillage qui fait, juste un mot, pardon, c'est un cafouillage qui fait penser à ce qui s'est passé sur l'impôt à la source. Oui. On a l'impression qu'en matière fiscale, les choses ne sont quand même pas complètement calées. Mais après tout, est-ce que c'est si grave?
Mathieu Niango, est-ce qu'il s'agit là d'un gage donné au mouvement des Gilets jaunes en pleine crise?
Je pense que c'est tout à fait le contraire d'un gage. C'est plutôt... le signe que le grand débat national qu'on nous annonçait comme une révolution, quelque chose d'absolument incroyable. Révolution, c'était le titre du livre de campagne d'Emmanuel Macron. Mais il s'engage d'un mauvais pas, d'un pas complètement catastrophique. Moi, ça me fait penser à une citation. J'ai écouté tout à l'heure ce que vous disiez. C'est Frédéric II, l'empereur d'Allemagne à la fin du XVIIIe siècle, qui disait « Raisonnez tant que vous voulez, mais obéissez ». Moi, j'ai le sentiment que ce grand débat, c'est de ce type-là. Raisonnez tant que vous voulez, mais obéissez. On changera pas la ligne, on décide d'en haut de ce que sera la fiscalité de ce pays. Vous pourrez en parler autant que vous voudrez, mais au final, c'est nous qui déciderons. Et je trouve que c'est très dommage, parce que lors de la manifestation des Gilets jaunes, ce qu'on entend beaucoup sur la taxe d'habitation, c'est que les gens sont assez partagés. Parce que la taxe d'habitation, les gens savent où elle va. Ils peuvent demander des comptes dessus, parce que c'est dans leur commune, souvent. Donc c'est intéressant de discuter collectivement de la fiscalité, c'est manifestement ce que veut pas faire le gouvernement.
Nous reviendrons sur le grand débat dans la deuxième partie des Informés de France Info. Encore un tout petit mot avec vous, Marion Mourgue. C'est un message un peu ambigu, également envoyé aux classes moyennes supérieures.
Oui, et donc à une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron. Ce qui peut expliquer peut-être ces cafouillages et ces revirements, parce que là, directement, c'était une mesure qui risque d'être très mal compris par ceux qui étaient encore en soutien d'Emmanuel Macron. Et on voit bien que la période est compliquée. Donc, c'était pas forcément le bon pas politique.
Allez, 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Trois cagnottes de soutien aux policiers et gendarmes blessés lors des manifestations de Gilets jaunes sont désormais en ligne sur Internet. L'une d'elles, lancée ce mardi par le président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, totalise plus de 100 000 euros de dons. Elle est mise en place en réponse à la collecte controversée en faveur de l'ancien boxeur Gilets jaunes Christophe Détinger. 59 000 salariés français actuellement au chômage partiel, selon la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. 4 000 entreprises, en majorité des PME, ont déjà eu recours à ce type de mesure. C'est la conséquence du mouvement des Gilets jaunes dont l'acte 9 se jouera ce samedi un peu partout en France. L'ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani, quitte les Républicains. Il rejoint le Rassemblement National et la liste du parti pour les élections européennes. Thierry Mariani évoque l'absence d'une ligne politique claire de son ancienne famille politique. Les vols au départ de l'aéroport londonien Heathrow suspendus pendant environ 40 minutes ce soir. En cause, le survol du site par un drone. Tout est rentré dans l'ordre depuis. Une affaire similaire avait paralysé le mois dernier de l'aéroport de Gatwick.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors c'est l'histoire d'une cagnotte qui n'avait rien de fiscal, lancée hier en soutien à l'ancien boxeur Christophe Détinger, en garde à vue, vous le savez, pour avoir agressé deux gendarmes à Paris lors de l'acte 8 de la manifestation des Gilets jaunes. Elle a atteint 117 000 euros et provoqué une vague d'indignation dans les rangs des forces de l'ordre et du gouvernement. La plateforme en ligne de collecte de dons Letchi l'a du coup clôturée. Marlène Schiappa a parlé de honte, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes invitée de Gilles Bornstein sur France Info ce matin.
C'est une honte, cette cagnotte. Moi, je me pose la question, à quel degré de haine on en est arrivé dans le débat public pour qu'il y ait des gens qui décident de financer des violences gratuites contre une personne dont la responsabilité est de maintenir l'ordre public. Ce n'est pas une question de leçon de morale, c'est une question de politique et de valeur de la République. Qui finance les violences contre les forces de l'ordre républicaines? Je pose la question.
Donc, vous voulez condamner ceux qui ont financé?
Je ne sais pas s'il faut les condamner. En tout cas, je pense qu'il faut être extrêmement ferme là-dessus. Je pense qu'il serait souhaitable, effectivement, de savoir qui a donné à cette cagnotte, parce que je crois que c'est une forme de complicité.
Alors Thomas Clé, vous êtes juriste. On peut savoir, on peut s'attaquer à savoir qui finance telle ou telle cagnotte, d'un point de vue légal?
Oui, c'est une colle, mais je pense que c'est pas le sujet. En réalité, pardonnez-moi de vous le dire de manière aussi directe. Je pense que là, il y a quelque chose qui est effectivement, comme le dit la secrétaire d'État, inacceptable. Depuis quand on va financer quelqu'un qui est un délinquant? Qui va brutaliser avec une extrême violence des policiers. Les images qu'on a vues samedi sont absolument invraisemblables. Pourquoi pas une cagnotte pour les frotteurs du métro ou pour l'amicale des diffamateurs du web, que sais-je. Ces gens sont des délinquants. Comment accepter qu'il y ait un financement privé, participatif, derrière ce type de comportement? Moi, il y a quelque chose qui m'échappe complètement. Je ne comprends pas qu'on puisse justifier cela. Ce matin, j'entendais d'ailleurs sur France Inter une députée de la République, Clémentine Autain, qui a l'air de trouver ça également parfaitement normal. Je suis scandalisé par ce type d'attitude. Oui, comme le dit la secrétaire d'État, il y a de quoi être indigné.
Marion Mourgue, vous partagez ce point de vue également?
Oui, totalement. C'est vrai que les images qu'on a vues sont extrêmement violentes. Le fait de les voir en boucle et que cette cagnotte, cette initiative, même on a du mal à comprendre comment certains ont pu penser à la faire.
Oui, oui. Alors Mathieu Niangot et Hélène Hamel, je vais vous faire réagir également sur ce qu'a dit Marlène Chabat, mais tout d'abord, je vais vous proposer d'écouter les arguments, pour être bien complet sur le sujet, d'un des contribuables anonymes qui a été joint sur France Info, Canal 27.
La motivation pour les cagnottes, ça a été d'exprimer mon mécontentement par rapport à la violence qu'a engendré les forces de l'ordre. Et s'il n'y avait pas eu tant de violence de la part des forces de l'ordre, on n'en serait pas arrivé là.
Mathieu Niangot, votre avis sur ce qu'a dit ce contribuable anonyme? Il y a quelque chose de l'ordre de la confrontation aujourd'hui?
Il faut qu'on sorte de la violence. Je veux dire, déplorer la violence, moi je le fais évidemment, il faut qu'on sorte de ça et de ce cycle-là de violence. Je voudrais citer simplement un tweet du syndicat des commissaires de la police nationale qui ont dit « c'est pas un match police-gilet jaune ».
Oui, c'est ce qu'a dit, le syndicat, alors SCPN.
Je dis vraiment attention, sortons de cette obsession de la violence qu'il faut condamner, de laquelle il faut sortir. Mais je voudrais simplement dire quelque chose, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, dans son essence, ça n'est pas la violence. Et précisément, dans la première des revendications des Gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne qui a été élaboré dans un contexte d'extrême violence, la Révolution française. Il a été présenté pour la première fois en 1793 par Condorcet, pour régler précisément une situation qui était autrement plus violente que la nôtre. Donc écoutons aussi ce que disent les Gilets jaunes. L'essentiel des Gilets jaunes qui sont là, ils sont pas là pour taper des gens. C'est pas vrai du tout. Ils sont là parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils demandent un partage des richesses et qu'ils demandent un partage
du
pouvoir.
Mais donc ils ne sont pas représentés par cette attitude de ce boxeur.
Non, ils ne sont pas.
Donc il n'a rien à voir avec les Gilets jaunes.
Lui-même a enregistré une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez
vu.
Lui-même, il dit qu'il a eu tort de le faire. Mais il dit
j'étais tellement énervé que finalement je tape un policier.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un certain qui devrait s'inspirer de ça. Parce que chaque fois, quand ils font n'importe quoi, c'est pas de leur faute. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour échapper à la justice. C'est pas ce qu'a fait ce monsieur. Je ne suis pas en train de justifier ce qu'il a fait. Mais enfin, faut regarder un peu les choses. Lui, il a rien demandé. Sur la cagnotte, moi, ce que je pense, c'est que les Françaises et les Françaises, ils ont en tête ce verre de La Fontaine. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Ils se disent quoi? Ils disent, ce monsieur n'aura pas forcément les moyens de se défendre. Et ben nous, on va mettre de l'argent. Parce qu'il y en a marre que des gens qui, par exemple,
Monsieur Sarkozy, par exemple, il a pas les moyens de se défendre.
Monsieur Ghosn, il aura sans doute les moyens de se défendre.
Non, mais là, c'est ça n'a rien à voir.
Je ne justifie pas du tout.
115 000 euros pour se défendre, ça fait chier les frais d'avocat.
J'essaie de comprendre pourquoi certains et certaines se sont portés au secours de ce monsieur. J'essaie simplement de comprendre. Et je redis que la violence n'est pas le cœur de ce.
Donc on ne doit pas financer la violence.
Attendez, on va laisser.
C'est pas la violence qu'ils n'ont pas financé pour lui offrir des gants.
Ils financent la violence.
Voilà. Bien sûr. Alors, Hélène Hamel, pour essayer de mettre un petit peu d'apaisement sur ce plateau.
Mais c'est bien. Il y a un autre aspect.
Non, mais ce n'est pas utile et les arguments sont très audibles.
Non, mais il y a un autre aspect qui est intéressant d'un point de vue de communicant. C'est surtout d'analyser aussi la réaction de Litchi, moi, que je trouve très intéressante. Parce qu'en fait, on voit bien qu'ils se sont retrouvés face à une situation sensible, une situation de crise. Et qu'en fait, ils ils ont pas réagi très vite et surtout ils ont une réponse d'entre deux. Ils ont d'abord laissé la cagnotte courir et puis finalement ils l'ont retirée. Et c'est pas une très bonne posture celle-là. Et ce qu'on peut se dire, c'est que moi à mon avis, Litchi qui est une ce qui est intéressant dans l'analyse de cette réaction de Litchi, c'est que dans un premier temps, je pense que les gens de Litchi voulaient la faire courir et qu'ils sont filiales d'une maison mère qui est Arkéa Crédit Mutuel, qui a une charte de valeur. Et je pense que ce n'était pas dans leur charte de valeur. Mais la réaction, elle a été trop flottante.
Alors à l'instant, nous apprenons que Chantal Jouanneau a pris la décision. Nous évoquions le grand débat à l'instant de quitter l'organisation de ce grand débat national qui démarre la semaine prochaine. Elle va rester présidente de la Commission nationale du débat public. On va l'entendre, elle l'a déclaré au Journal de France 2.
J'ai constaté, je prends acte d'ailleurs, des questionnements sur les niveaux de rémunération, alors en particulier de la présidente de la Commission nationale du débat public. C'est un niveau de salaire derrière qui est indépendant du grand débat, puisque il est fixé de longue date. Et en général d'ailleurs des hauts fonctionnaires, puisque la question est quand même très élargie. Et je pense que le débat est légitime, il est parfaitement légitime et nos concitoyens sont parfaitement légitimes à le poser. Et donc je constate qu'effectivement, ça ne crée vraiment pas les conditions de sérénité qui sont nécessaires pour ce débat. Et donc j'ai décidé de me retirer du pilotage de ce débat parce que ce débat est nécessaire, il doit être serein, et il faut créer toutes les conditions pour qu'il se déroule.
Voilà, nous allons donc commenter cette information qui vient donc de sortir au Journal de France 2, Chantal Jouanneau qui quitte l'organisation du grand débat national, Marion Moore, qui démarre dans une semaine.
Logiquement. La semaine prochaine.
Comment interpréter cette décision de Chantal Jouanneau ?
On a senti depuis le début que c'était très compliqué entre Chantal Jouanneau et le gouvernement. C'est-à-dire que les deux avaient des volontés différentes dans la maîtrise et l'application du débat. Et Chantal Jouanneau n'était pas partie prenante des premières réunions. On sentait qu'elle avait peu d'informations. Il y a déjà ce contexte. Et puis ensuite, il y a eu la polémique sur son salaire. Alors, c'est sûrement plus sage politiquement qu'elle se soit retirée parce que on sentait que le montant de son salaire lui serait toujours reproché. Oui. Mais c'est aussi un signal compliqué, alors que le débat n'a pas commencé, un signal qui montre que tout reste à faire et que même la personne qui devait l'organiser se retire. Donc le signal est quand même très, très...
Oui, signal compliqué, vous confirmez, Hélène Hamel, en termes d'affichage, d'image, ça devient un peu difficile cette affaire.
Oui, je pense que c'est pas une très bonne nouvelle. Et par ailleurs, cette polémique, elle est dommageable autour du salaire de Chantal Jouanneau.
Il y a plus de 14 000 euros brut.
Il y a peut-être des raisons sur le cas particulier de Chantal Jouanneau, mais je pense que ça révèle un phénomène plus large, qui est les polémiques autour des salaires des politiques. Ça fait des années que les politiques se tirent des balles dans le pied en voulant réduire leur salaire, en disant qu'ils sont trop payés. On ne valorise pas assez leur fonction et la fonction du politique. Et notamment, je pense, avec François Hollande et la présidence normale, on a vraiment dévalorisé. Et aujourd'hui, on n'entend pas de voix de gens qui valorisent la fonction des politiques. Chantal Jouanneau, elle a des qualités. Ce que ça dit quand même, c'est qu'on est rentré dans une logique où il faut toujours moins, on nivelle par le bas, on critique et on ne monte pas les compétences. Oui, non mais peut-être, je ne parle pas du cas particulier de Chantal Jouanneau, mais ça relève, ça c'est d'un débat qui est plus large et qui est inquiétant.
En tout cas, ce débat aura permis de connaître le salaire de cette du président de cette commission.
C'est un débat très intéressant lancé par Hélène Hamel autour du montant des salaires des personnalités publiques. Je vous propose de marquer une pause et nous revenons là-dessus sur cette décision de Chantal Jouanneau dans un instant après le rappel de l'info à 20h21 de Thomas Bénèche.
C'est donc l'information de ces toutes dernières minutes. Chantal Jouanneau se retire du grand débat national. Elle reste présidente de la Commission nationale du débat public. Elle le dit ce soir sur France 2 après la polémique suscitée par sa rémunération, 175 000 euros annuels. La taxe d'habitation sera-t-elle finalement supprimée pour l'ensemble des Français ? L'Élysée annonce que son abandon pour 20% des contribuables les plus aisés sera évoqué lors du prochain grand débat national. Cette consultation doit répondre à la colère des Gilets jaunes, notamment sur le pouvoir d'achat. Le groupe italien Fincantieri se refuse ce soir à tout commentaire. Le repreneur des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire va faire l'objet d'une enquête de la Commission européenne. L'UE s'interroge sur un possible déséquilibre de la concurrence en matière de construction navale à l'échelle européenne et mondiale. En République démocratique du Congo, une cinquantaine d'irrégularités majeures observées lors de l'élection présidentielle de décembre dernier, constat dressé par une centaine de bureaux de vote vote où étaient déployés des représentants de la SICOMEL, synergie des missions d'observation citoyenne des élections. En football, match de quart de finale de la Coupe de la Ligue ce soir, Lyon reçoit Strasbourg et c'est à partir de 21h.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Mathieu Niango, vous aviez le premier évoqué ce grand débat sur ce plateau. Selon vous, après cette décision spectaculaire ce soir de Chantal Jouanneau, y a-t-il encore un débat possible ?
On parlait de dignité tout à l'heure, moi je n'étais pas au courant. Moi je dis qu'elle a pris la bonne décision. Je trouve qu'elle a pris une décision sage, sincèrement, parce que le débat partait mal. Le plus grave, ce n'était pas la rémunération, c'est le fait qu'elle ait été nommée elle-même par le président Macron, après l'avoir soutenue. Bon, donc ça a engagé quand même une responsabilité de sa part. Et puis, deuxièmement,
ça la rendait juge et partie ?
Ça rend les choses pas claires, mais surtout, ce qui est important dans un débat de ce type-là, c'est qu'on connaisse les finalités. Je pense que les Françaises et les Français, ils s'inscriront dans ce débat s'ils savent ce qui va se passer. Est-ce que les propositions qui sortiront en premier seront soumises à référendum ? Est-ce qu'elles seront discutées au Parlement, éventuellement votées ? C'est ça qu'ils veulent savoir.
Ils vont le savoir et le 15 janvier avec la lettre du président de la République.
Moi, le signe que j'ai, l'impression que j'ai, c'est que Mme Jouanneau était manifestement de bonne foi, elle le démontre ici, et que ces garanties-là n'ont pas été données, puisque le gouvernement n'a cessé de dire, et M. Macron a dit, de toute façon, on va faire les grandes réformes. Donc on va débattre de certaines choses, encore une fois, débattez de ce que vous voulez, mais obéissez. Et je pense que ça ne lui a pas satisfait.
C'est un peu sévère, votre approche. Je la comprends, mais dire que le débat, on connaît déjà les conclusions. Je trouve que lorsqu'on ouvre comme ça une perspective de discussion, il faut quand même laisser sa chance au produit, si vous permettez cette expression.
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que les garanties du débat étaient peut-être pas posées.
On va peut-être faire de la politique fiction, mais vous connaissez un petit peu le système des commissions, des hautes autorités, tout le reste. Comment est-ce qu'on organise qu'on organise un tel débat si la Commission nationale du débat public se retire ?
Déjà, on peut organiser un débat sur à quoi sert la Commission nationale du débat. C'est parce qu'effectivement, elle n'a plus de président. Jusqu'à présent, ce n'était pas un organisme dont on entendait beaucoup parler, malgré tout.
Ils ont mené beaucoup de consultations.
Il a donné des consultations. Il sert à discuter, à débattre, peut-être à négocier. Mais on n'en a jamais autant parlé que depuis qu'il y a ce grand débat national. Donc c'est quand même dommage qu'à l'occasion, précisément, de donner à cette commission un éclat et un rayonnement particulier, la présidente se retire. Laissez-moi terminer. Se retire justement peut-être de ce qui aurait été le point d'orgue de l'activité de cette commission.
Ah, c'est sûr. Voilà. Ils n'ont jamais tenu de débat aussi vaste. Chantal Jouanneau le disait dans le JDD ce week-end. Donc c'était quand même c'est un débat exceptionnel et c'est quand même dommage que ça parte comme ça. Et moi je ne suis pas d'accord tout à fait avec vous sur les raisons du
avec Mathieu Niango.
Mathieu Niango sur son départ. Moi, je pense que c'est vraiment lié à la polémique de son salaire. Je ne crois pas que ça soit lié à des tensions avec le président de la République.
Alors, je vais dire quand même quelque chose là-dessus. Pardon, mais au début de la crise des Gilets jaunes, je le rappelle, en août 2018, moi, j'ai regardé ça de près. En août 2018 ou début septembre 2018, la Commission nationale du débat public a donné un avis défavorable à l'augmentation de la taxe, a dit...
Comme le CESE.
A dit, ça sera une catastrophe si vous le faites. Donc je pense que aussi ils ont le sentiment de ne pas toujours être écoutés, que là aussi, ça pourrait être une catastrophe.
Marion Mourgue, je vous pose la question assez cash. Est-ce qu'avec le départ de Chantal Jouanneau, qui a aussi un petit côté, pardon de me répéter, pataquès, est-ce que ce débat a un petit peu du plomb dans l'aile ?
Il a du plomb dans l'aile, mais indépendamment de son départ, j'ai pas l'impression que cette commission soit nécessaire et indispensable pour organiser un débat, sachant qu'on a quasiment 36 000 mairies en France et que c'est un lieu que connaissent les Français et que c'est un lieu où peuvent aller spontanément les Français. Donc le débat peut avoir lieu, qu'il y ait ou pas Chantal Jouanneau. Ensuite, c'est un mauvais signal envoyé alors que personne ne sait exactement comment va se passer ce débat. Personne ne sait exactement les contours, ni même les réflexions. Donc c'est plus que ça rajoute du cafouillage à quelque chose qui n'était déjà pas très clair. Mais sinon, le débat peut avoir lieu. Si les Français ont envie qu'il ait lieu, il aura lieu.
Hélène Hamel.
Mais la CNDP a quand même une expertise sur ces sujets. La commission, pardon.
Nationale du débat.
Et en fait, cette consultation, elle a plusieurs volets. Il y a effectivement l'implication des communes, mais il y a aussi une plateforme numérique. Il y a aussi des ateliers. Il y avait aussi des choses qui étaient organisées. Il y avait une vraie méthode portée par
cette
CNDP.
Mais on a tellement dit que
ça
ne se fait pas n'importe comment. Et je pense que Chantal Jouanneau avait à cœur de mener ce débat. Et c'est dommageable. Et je pense qu'il faut arrêter d'être négatif, d'enterrer en permanence.
Il faut remettre la commission. Il y a 10 personnes dans la commission, donc c'est pas non plus les 10 personnes qui allaient faire.
Non, mais ils sont accompagnés de prestataires. Mais ils coordonnent. qu'on leur a donné des moyens pour cette consultation.
Vous dites ce soir qu'il faut laisser une chance au débat, c'est ça?
Mais bien sûr qu'il faut laisser une chance au débat. Oui. Enfin, on peut pas l'enterrer maintenant. Bien sûr qu'on va inviter les Gilets jaunes et l'ensemble des Français à participer à cette consultation. Il faut qu'ils participent. Le Conseil économique, social et environnemental a mené une consultation pendant 15 jours de mi-décembre à début janvier. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas eu plus de gens qui aient participé, parce qu'on a vu que la Manif pour tous a participé et est arrivée en tête des propositions. Donc, il va falloir que ce débat se passe bien, qu'il soit mené dans des bonnes conditions et qu'on arrive au bout. Et il faut arrêter de l'enterrer dès maintenant.
Enfin, allez, nous marquons une pause dans les informés. Nous reviendrons sur les annonces de sécurité d'Edouard Philippe, sur la candidature de Thierry Mariani, mais du côté du Rassemblement national dans la deuxième partie, dans un instant, après la météo et le rappel des infos.
Simone a 94 ans. Elle est en bonne santé, mais il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Sa fille Aude passe chez elle tous les soirs après le travail pour lui faire ses courses et vérifier que tout va bien. Un jour, elle décide enfin d'appeler Petit-Fils. Grâce à Petit-Fils, une auxiliaire de vie professionnelle vient chaque jour chez Simone lui préparer son dîner et passer la nuit avec elle.
Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com.
Coucou Marco, ça va?
Au top! Cette année, j'ai décidé de franchir le pas.
Ah, tu vas te marier?
Ah non?
Quoi, tu la quittes?
Mais non! Ah. J'ai décidé de prendre une imprimante HP avec HP Instant Ink.
HP Instant Ink, c'est quoi?
HP Instant Ink, c'est un forfait qui te permet d'imprimer gratuitement jusqu'à 15 pages par mois. Et en plus, le recyclage de tes cartouches est gratuit.
Un plan économique?
Bah, t'as imprimé?
Ouais.
Avec HP Instant Ink et les imprimantes HP, imprimez gratuitement jusqu'à 15 pages par mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/instantink.
France Info Météo avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt. 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés partout en France.
Les prévisions d'Élodie Calac pour Météo France.
Neige et froid demain, moins 3 à 2 degrés entre le Massif central, les Alpes et le Nord-Est le matin, 2 à 7 ailleurs. L'après-midi, 3 à 7 degrés le plus souvent, seulement 1 degré à Langres ou à Saint-Étienne, encore 8 à 14 en Méditerranée. Le vent de nord accentuera la sensation de froid, il sera encore fort dans le sud-est. De l'Alsace et de la Lorraine jusqu'à l'est de l'Auvergne et à Rhône-Alpes, il neigera parfois jusqu'en plaine, quelques centimètres, 5 à 10 dès 500 mètres d'altitude. Des Hauts-de-France au Massif central, quelques averses, de la neige à partir de 300 mètres. En allant vers l'ouest, quelques bons moments de soleil. Autour de la Méditerranée, du soleil, sauf en Corse où on attend des averses orageuses.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Il est 20h30 sur France Info. Toute l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Chantal Jouanneau annonce ce soir son retrait du grand débat national destiné à sortir de la crise des Gilets jaunes. Après la polémique suscitée par son salaire, elle estime que les débats sur son niveau de salaire, plus de 14 000 euros par mois, sont légitimes, mais que les conditions de sérénité nécessaires n'étaient pas assurées. Chantal Jouanneau qui précise qu'elle ne quitte pas pour autant la présidence de la Commission nationale du débat public. La cagnotte de soutien à l'ancien boxeur Christophe Détinger, soupçonné d'avoir agressé deux gendarmes samedi, a rencontré un énorme succès avec plus de 115 000 euros récoltés en 24 heures. Mais elle a surtout suscité une avalanche de critiques, notamment de la part du gouvernement. Le site internet Litchi, sur lequel elle était hébergée, a décidé de la fermer, Mathieu Mondoloni.
La raison invoquée par le site est que cette cagnotte contrevient aux conditions d'utilisation. Elle a donc été stoppée, mais pas annulée, précise Litchi dans un communiqué. La somme sera reversée non pas au créateur de la cagnotte, comme c'est le cas habituellement, mais à l'avocat de Christophe Détinger, et ce uniquement sur présentation de devis et de notes d'honoraires. Une décision qui n'a pas suffi à faire taire les critiques. Le Crédit Mutuel Arkéa, propriétaire de Litchi, a donc décidé de lancer une enquête interne portant sur la légalité et le respect des valeurs mutualistes de cette cagnotte. On ne sait pas encore ce qu'il adviendra de l'argent. Il faudra attendre les conclusions de cette enquête, précise-t-on simplement du côté de la banque. Pas certain donc que les fonds ne soient finalement reversés à qui que ce soit. Ce qui a provoqué la création de nouvelles cagnottes de soutien à l'ancien boxeur. Plusieurs dizaines ont été lancées dans la journée, avec plus ou moins de succès.
Et puis en réaction, deux autres cagnottes ont été lancées, cette fois en soutien aux forces de l'ordre, notamment par Renaud Muselier, le président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà de quoi alimenter le flou sur sa stratégie fiscale. Deux jours après avoir évoqué un maintien de la taxe d'habitation pour les plus riches, eh bien le gouvernement assure finalement vouloir aller jusqu'au bout de sa réforme. en supprimant complètement cet impôt. L'Élysée qui indique ce soir toutefois que la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des contribuables les plus fortunés sera bien sur la table lors du grand débat. Les vols ont repris dans la soirée à l'aéroport de Londres-Heathrow. Après avoir été perturbés pendant une heure à cause d'un drone aperçu au-dessus des lieux, le mois dernier, d'autres drones qui avaient survolé l'aéroport de Gatwick, autre aéroport londonien, avaient paralysé le trafic aérien pendant 3 jours au total. Et puis Kim Jong-un est arrivé à Pékin pour une visite surprise chez son allié chinois du dirigeant nord-coréen. Visite qui intervient quelques jours après sa menace de changer d'attitude envers les États-Unis s'ils maintiennent leurs sanctions. Il est 20h33 sur 33 minutes sur France Info. Voici les informés.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Marion Mourgue, grand reporter au Figaro, avec Hélène Hamel, associée de l'agence Plead, spécialisée dans le conseil en stratégie de communication, avec Thomas Clé, professeur de droit à la Sorbonne, Université Paris 1, avec Mathieu Niango, porte-parole d'Anou, la démocratie. Alors nous allons évidemment revenir sur la décision, sur l'annonce de Chantal Jouanneau. Elle quitte donc l'organisation du grand débat public qui va démarrer mardi prochain, et elle conserve toutefois la présidence de la Commission nationale du débat public. Écoutez ce que Chantal Jouanneau disait de son salaire. Vous savez, son salaire a fait polémique hier. Il est question de 14 700 euros bruts. Écoutez ce qu'elle en disait hier au micro de Gilles Bernstein sur France Info.
C'est le salaire du président ou des présidents de la CNDP, quel qu'il soit. Donc ça, c'est
pas
bien
que vous,
fixé.
Votre prédécesseur aussi.
Absolument, ça c'est bien fixé par la loi entre guillemets, en tout cas par les décideurs. Donc ça dépend pas de moi et c'est pas lié à cette mission aussi. Hein. C'est pas du tout lié au grand débat.
Et vous
national.
Comprenez que ça puisse choquer, puisque là on va discuter de gens qui ont du mal à terminer leur fin de mois. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer?
Je comprends et je pense que c'est important aussi que les gens disent pourquoi ça les choque, en quoi ça pose problème, et que à la limite s'ils veulent faire une proposition pour réviser ce salaire, ils en sont totalement libres.
Alors ça, c'était donc hier, hein, je le précise. Marion Mourgue, est-ce que la question salariale aura pesé? Est-ce qu'il y a vraiment débat, selon vous?
Oui, il y a débat, même si là, je pense que le fait qu'elle se retire justement de l'organisation de ce débat ne modifie pas la situation de son salaire, puisqu'elle reste présidente de la commission, c'est ce qu'elle dit sur France 2, et donc, en principe, elle garde son salaire. Donc là aussi, ça va rester compliqué. Et oui, dans un moment où les Gilets jaunes parlent de pouvoir d'achat, expliquent suffisamment par mois, un salaire de 14 000 euros aujourd'hui pour une commission dont on ne sait pas grand-chose, oui, c'est compliqué politiquement.
Mathieu Niango, cette question du salaire de la responsable, de la présidente de la Commission nationale du débat public aurait pesé, selon vous, sur le démarrage du grand débat national?
Je pense qu'elle aurait pesé, mais comme aurait pesé et comme pèsent d'autres dispositifs, c'est un débat qui est extrêmement encadré. À la fois formellement, puisqu'il y a 5, je crois, référents, députés qui garantissent, qui sont nommés par la République en Marche. Et puis, vous avez des délégués régionaux aussi, qui sont également nommés par la République en Marche. Donc, tout ça est très encadré. Et puis, c'est surtout thématiquement. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse mener un grand débat national qui est consécutif d'une des plus grandes crises que la France contemporaine ait connue, enfin, et connaît encore actuellement. Et puis qu'on dise, on gardera le cap, on va faire les grandes réformes importantes, mais pour le reste, vous pourrez discuter de ce que vous voudrez. Mais de quoi va-t-on discuter? Ouais. Et avec quel résultat? Alors, surtout Mathieu, qu'est-ce qui sera au bout? C'est ça la vraie
Mathieu
question.
Mathieu Niango, Chantal Jouanneau avait revendiqué une certaine forme d'indépendance, et elle y avait mis même une condition pour sa participation à ce futur débat. Le fait de son retrait peut modifier la donne, selon vous?
Moi, je pense que c'est le signe que ces conditions, je suis désolé de le dire, c'est un signe possible, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais que ces conditions n'étaient pas réunies. Je voudrais simplement dire autre chose. C'est que des grands débats, M. Macron, il adore en organiser. C'est vraiment son truc. Hein. Depuis le début du quinquennat, il y en a plein, des grands débats. Le dernier en date, c'est le grand débat sur l'Europe. Je le sais, puisque à nous, la démocratie, il a participé. Et c'est toujours une très bonne chose d'y participer, parce que ça permet de structurer un petit peu les idées. Mais nous, on n'était pas dupes. Je suis allé voir le rapport, là, un petit peu avant de venir. C'est un rapport de 9 pages qui a été fait par la Commission européenne sur le grand débat qui a été fait en Europe. Mais ce rapport, excusez-moi, c'est un scandale. C'est une honte. On ne tient pas du tout compte d'un certain nombre de choses dont je sais qu'elles ont été dites. On dit, en gros, la Commission, c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Donc, ce qu'elle a fait. Donc, si c'est pour que ça aboutisse à la même chose et que juste ça endorme les gens, que ça... Je pense que c'est pas du tout sérieux,
les intentions pour l'instant,
à la hauteur des enjeux que la France rencontre aujourd'hui.
Hélène Hamel, vous le trouvez pessimiste, notre Mathieu Niangon?
En fait, je jetterai pas à la poubelle la consultation européenne, parce qu'il y a eu quand même 70 000 participants à cette consultation et contributions.
C'est toujours ce qu'on dit, on prend le nombre de gens qui ont contribué, mais on regarde pas à quoi ça aboutit. Ça aboutit à quoi?
Non, mais d'accord, mais là, vous parlez des consultations européennes, mais non,
ça... Revenons au départ de Chantal Jouanneau, si vous le voulez bien. Selon vous, c'est préjudiciable à ce qui va suivre ou pas?
Mais oui, c'est préjudiciable. Mais c'est vrai que la polémique autour de son salaire était compliquée à gérer en même temps que ce grand débat. En revanche, comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même dommage d'enterrer ce grand débat. Les liens avec La République En Marche, enfin la CNDP, n'avaient aucun lien. Vous parliez tout à l'heure du dispositif.
Soutenu le président Macron.
Non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que le parti organise La République En Marche dans le cadre du grand débat national, avec les ministres, enfin les députés et ministres qui ont été désignés, n'a rien à voir avec ce qui va se passer avec la CNDP. Parce que vous parlez de ça. Ben non. Alors, la SNDP était indépendante, un dispositif indépendant.
Indépendante, elle dépend du ministère d'écologie.
C'est toujours ce qu'a affirmé Chantal Jouanneau. Qu'elle démissionne aujourd'hui, enfin, qu'elle se retire de ce débat pour des raisons salariales. On peut les comprendre parce qu'il y a une polémique autour de ce sujet et qu'il n'y a plus la sérénité des débats. Mais en revanche, ça ne doit pas enterrer le débat.
Thomas Clay, un débat chasse l'autre finalement, puisque vous souhaitiez ce soir intervenir sur les mesures, les annonces de sécurité du Premier ministre et regarder ce qui se passe et s'il en va de l'actu aujourd'hui, depuis un mois, depuis deux mois, de la sorte. Chaque jour, le débat est chassé par un autre. Mais vous vouliez quand même évoquer les annonces du Premier ministre.
Riche. Non, je disais qu'à partir du moment où le salaire de Chantal Jouanneau a été révélé publiquement, et c'est vrai que c'est un salaire qui peut paraître important pour une commission dont on n'entend pas parler quand même tous les jours, si on le compare aux autres autorités administratives indépendantes, que ce soit l'autorité de la concurrence, l'autorité de sûreté nucléaire, etc., c'est un salaire qui apparaît quand même tout à fait conséquent. Mais au fond, à partir du moment où ce montant a été révélé, il n'y avait plus que deux mauvaises solutions. Soit elle demeurait et son salaire allait polluer la discussion, soit elle ne demeure pas et on va se demander ce qu'elle va faire maintenant alors que sa commission est précisément
censée organiser ce grand débat.
Pour une fois qu'il y a un grand débat national, la commission du débat national n'en fera pas partie. C'est quand même bizarre.
Si, elle en fera partie.
Hélène Hamel ?
Non, si, la CNDP va l'organiser.
Oui, mais sans sa présidente.
Sans sa présidente.
Et est-ce que c'est un problème que sa présidence se retire de l'organisation en question? Est-ce que ça va gêner justement la bonne tenue de ce grand débat? On va essayer de conclure là-dessus avec vous, Hélène Hamel.
Attendons de voir qui va être nommé ou en tout cas qui va exercer ce rôle de coordination à sa place.
Et pour combien?
Oui. Non, pas pour combien, puisqu'il n'y avait pas de salaire supplémentaire pour mener le débat.
C'est une boutade.
Allez, 20h40 sur France Info, le retour de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Face à la polémique sur son niveau de rémunération, Chantal Jouanneau annonce donc ce soir sur France 2 qu'elle se retire du pilotage du futur grand débat national, consultation pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Elle reste malgré cela présidente de la Commission nationale du débat public. Garde à vue prolongée aujourd'hui pour Christophe Détinger, l'ancien boxeur soupçonné d'avoir frappé des gendarmes. C'était samedi lors de la manifestation Gilets jaunes à Paris, devant le tollé provoqué par la cagnotte lancée sur Internet pour le soutenir. Cette collecte est fermée depuis aujourd'hui. Le patron de Renault, Carlos Ghosn, se dit détenu de manière injuste. L'ancien mania de l'automobile comparaissait pour la première fois aujourd'hui devant le tribunal du district de Tokyo. L'audience portait sur les motifs de son placement en prison. Carlos Ghosn est soupçonné au Japon de malversation financière. Au Pérou, le français Sébastien Loeb remporte aujourd'hui sur Peugeot la deuxième étape catégorie auto du Rallye Dakar. Cette étape avait lieu entre Pisco et San Juan de Marcona.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors ce n'est pas du football, même s'il est question de transfert. Thierry Mariani a donc annoncé, officialisé à l'AFP, qu'il quittait les Républicains et rejoignait la liste du Rassemblement National en compagnie de l'ancien député UMP-LR Jean-Paul Garot, un ancien magistrat. On rejoint la liste du RN, du Rassemblement National avec Jean-Paul Garot, parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est celle qui correspond à nos convictions pour changer l'Europe, a déclaré l'ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy. Et Marion Mourgue, est-ce qu'on doit parler de cas isolés ou s'agit-il d'un signal, un brin inquiétant pour le parti de Laurent Wauquiez ?
J'ai envie de vous dire les deux. C'est-à-dire que Thierry Mariani, c'était dans les tuyaux depuis des mois, on s'attendait, c'était imminent. Lui était plus sur la ligne de l'union des droites en disant, bon, aux Républicains, on n'y arrivera pas et il mieux vaut trouver des alliés et donc partir au Rassemblement national. Mais le fait que ça arrive maintenant dans un contexte qui est très difficile pour les Républicains, qui sont largement devancés par le Rassemblement national et par En Marche dans les sondages pour les européennes, à un moment aussi où de l'autre côté, des personnalités comme Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin prennent aussi leur distance avec les Républicains, tout ça crée un contexte qui n'est pas porteur pour LR, même si pour le moment, il n'y a que deux départs.
Thomas Clay, Thierry Mariani, on le savait, avait peut-être une envie de d'ailleurs, hein, depuis quelques temps, depuis quelques années même.
De place éligible peut-être aussi, de place éligible sur la liste européenne. Est-ce qu'il l'aurait eu à LR? C'est pas sûr.
Pas sûr.
C'est aussi affaire de conviction.
En tout cas, allez, disons que c'est affaire de conviction et disons qu'il est enfin à sa place au Rassemblement national. Le seul paradoxe, c'est qu'il quitte LR au moment où LR n'a jamais été aussi proche du Rassemblement national. C'est ça, finalement, la situation paradoxale. Les digues sont coupées quand même... les digues ont été dressées depuis longtemps et désormais, il y a un passage qui s'opère. Thierry Mariani, c'est un symbole parce que c'est un ancien ministre de Sarkozy. C'était un très proche de Sarkozy. C'était aussi un député du Vaucluse, le département d'ailleurs de Marion Maréchal Le Pen. Au moment où, au fond, il y a, comme le disait Marion Mourgue, une partie de la droite qui se rapproche du centre et une partie de la droite qui se rapproche de l'extrême droite, c'est curieux qu'il quitte LR au moment où LR n'a jamais autant ressemblé au Rassemblement national. Voilà.
Hélène Hamel, sur cette projection des élections européennes, elles arrivent assez vite. Hein. Finalement, on y pense assez peu, mais elles seront là, dans quelques semaines, il y aura une campagne avec des partis en marche, si je puis dire, vers ce scrutin. Vous avez la sensation qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, plus que jamais, fait figure de favori?
En tout cas, c'est ce qu'indiquent certains sondages, mais la campagne va avoir lieu. Elle est quand même longue et à la fois longue et courte. Donc, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Il va falloir voir aussi comment se passeront les prochains week-ends et la gestion du mouvement des Gilets jaunes par le gouvernement. La prise de parole du Premier ministre avec ses mesures anti-casseurs, elles étaient aussi là pour rappeler l'ordre républicain, pour en fait essayer d'aller contre ce désordre et cette violence qui est inacceptable en démocratie. C'était une deuxième séquence après l'annonce de mesures sociales, c'était des mesures plus républicaines, en tout cas de retour à l'ordre, et il y a la volonté de reprendre en main cette situation et pour le parti de La République En Marche partir à la conquête de son électorat, ouais. D'y retourner, et puis il y aura le grand débat qui va aussi permettre d'aller sur le terrain et de parler d'Europe.
Mathieu Niangos, vous pensez que les élections européennes seront, comme la présidentielle, un moment de redéfinition, au fond, de l'échiquier politique national?
En tout cas, ce que ces élections vont sans doute mettre en avant, c'est l'opposition que le président Macron a théorisée entre le vieux monde et le nouveau monde. Et je trouve que l'attitude de M. Mariani, je la trouve presque touchante, si ce n'était pas dramatique, compte tenu de la nature du parti qu'il rejoint. Mais il y a 3 ans de ça, il nous expliquait que le Rassemblement national n'aimait jamais de la vie, c'était vraiment pas du tout ce qu'il voulait. Il y a l'année dernière, ou il y a 2 ans, il disait « Mais si la droite veut revenir au pouvoir, faut qu'elle s'allie à l'extrême droite ». Il le disait comme ça, pour des raisons stratégiques. Puis maintenant, il franchit le pas. Donc à mon avis, compte tenu du contexte qu'on est en train de vivre, cette opposition, elle sera très claire entre des pros de la politique, comme M. Mariani, qui est engagé depuis plus de 40 ans, et puis peut-être des forces nouvelles qui vont émerger d'ici là. On ne sait jamais. Qu'il y a quelque chose qui va se passer.
Alors, c'est vrai que le Rassemblement national est régulièrement donné favori dans les projections, les enquêtes, les sondages d'opinion, soutenu, le Rassemblement national, à distance, par certains alliés européens. En Italie, les deux vice-premiers ministres, Luigi Di Maio, c'est le chef de file du mouvement Cinque Stelle, et Matteo Salvini, qui est le patron de la Ligue, ont apporté hier un soutien assez surprenant aux Gilets jaunes. Écoutez ce qu'en a dit tout à l'heure Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Il était l'invité du 19-20 politique sur France Info.
Je leur dis aux deux, occupez-vous des Italiens d'abord. Les Français n'ont pas besoin de vos bons conseils. Très clairement, c'est pas de bonne politique commenter, s'ingérer dans la vie politique du voisin. Je crois qu'il est important de respecter eh bien les amis voisins et les
amis,
États européens.
Amis,
non mais
on
je dis amis parce que nous
oui.
sommes membres de la famille européenne
oui.
et donc il y a un minimum de savoir-vivre. Vous savez que si on avait été sur un terrain de foot, peut-être que un Zinedine Zidane, il aurait réglé les choses. Hein hashtag coup de boule.
Hashtag coup de boule, a dit Jean-Baptiste Lemoine, Thomas Clé, cette métaphore
c'est une référence que je comprends.
Footballistique devrait vous séduire.
Oui, oui, bah oui, parce que c'était effectivement entre la France et l'Italie. À la fois, évidemment, c'est inacceptable de ces propos qui sont tenus, mais parce qu'ils parlent les propos eux-mêmes, que des étrangers viennent discuter de la politique française, moi, ça ne me choque pas, parce que c'est ça l'Europe. L'Europe, c'est aussi de dire ce qu'on pense de ce qui se passe à côté. Et c'est précisément parce que les Italiens sont légitimes à dire ce qu'ils pensent de ce qui se passe en France qu'on peut dire aux Italiens, bah, taisez-vous. Taisez-vous, parce que ce que vous dites est inacceptable. Zitto, comme on dit en italien.
Zitto, oui.
C'était pas vraiment une discussion.
Hélène Hamel, c'était pas une discussion, vous dites. Hein.
Non, non.
Il oui. faut l'engager.
C'est plutôt alors, une mauvaise manière faite aussi à Emmanuel Macron.
Il se trouve que, vous parlez à l'instant de commentaires, Thomas Clé, Matteo Salvini a déclaré hier devant la presse à propos du président Emmanuel Macron, plus vite il rentre chez lui, mieux ça vaut. Marion Mourgue, comment les chefs d'État des 27 peuvent-ils désormais coexister après de telles déclarations, voire certaines relations entre eux?
Ça va être très difficile, parce que les usages diplomatiques veulent que OK, on peut se communiquer quelques messages, mais généralement, on ne le fait pas publiquement pour s'ingérer dans la gestion des affaires intérieures d'un pays. Et on ne supporte pas que la France le fasse. Donc là, ça va devenir compliqué quand ils vont tous se retrouver. J'ai plus le calendrier en tête, mais c'est aussi une manière, on l'a vu avec Donald Trump, on le voit là avec les Italiens, d'essayer d'affaiblir Emmanuel Macron en voyant bien que dans le contexte politique intérieur, il est déjà très affaibli. Donc c'est une manière d'en profiter aussi, ce qui n'est pas très élégant en tant que partenaire.
Mathieu Nyango, l'initiative de Jacqueline Mourot, hein, qui est l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes depuis le départ, qui fonde son parti, les émergents, c'est une bonne idée? Est-ce que transformer les Gilets jaunes en mouvement politique, c'est la solution?
Bah, je ne sais pas ce que dira ce parti politique.
Essentiellement, elle veut parler de refonte fiscale, si j'ai bien compris, et également Jacqueline Mourot parle aussi de mettre tout le social sur la table.
Il n'y a pas que le social. Moi, je pense que le problème face auquel on est actuellement, et il a émergé très vite chez les Gilets jaunes, c'est un problème institutionnel. On ne peut plus avoir une personne qui décide de tout en haut, tout seul, qui nomme les gens. Alors les gens, quand ils s'en vont, on est tout perdu. Ça n'est juste plus possible. Donc c'est ça aussi qu'il faudrait mettre sur la table. Et moi, je pense effectivement, pour avoir cofondé un mouvement qui prône ça, que les questions institutionnelles devraient être au cœur de programmes d'un certain nombre de mouvements politiques. Ça, c'est vrai que c'est une clé. Après, sur les autres sujets, oui, mais ce sujet-là devrait être au cœur des démarches politiques nouvelles.
Thomas Clé. Je suis parfaitement d'accord, évidemment, avec cette analyse très juridique. D'autant plus que, effectivement, ce qui est incroyable dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'au fond, vous l'avez dit tout à l'heure en début d'émission, et peut-être que certains ne nous écoutent pas l'intégralité de l'émission, ce qui est incroyable dans ce mouvement, c'est qu'après toutes ces revendications, après ce mouvement qui part sur les questions fiscales, sur les questions de taxes, etc., eh bien, ce qui reste, c'est tout ce qu'ils demandent, et là, le point de consensus, c'est le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire une mesure de réforme institutionnelle. Donc c'est vraiment un besoin et une demande, une appétence particulière pour une autre forme de démocratie. Ça, c'est vrai.
Allez. Soutenu par les Français, 80% des Français.
Et ça sera débattu dans le grand débat national.
Il faudra que ça soit fait derrière aussi.
Allez. Donc il sert à quelque chose.
La réforme des institutions n'est pas encore passée.
Allez, 20h50 sur France Info. Dans un instant, nous évoquerons le sort de Carlos Ghosn. Mais tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
Chantal Jouanneau jette l'éponge. Elle ne pilotera pas le grand débat national pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Elle le dit ce soir sur France 2, après la polémique autour de son niveau de rémunération, 175 000 euros annuels. Trois cagnottes de soutien aux policiers et gendarmes blessés lors des manifestations de Gilets jaunes existent désormais sur Internet. L'une d'elles, lancée ce mardi par le président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, totalise plus de 110 000 euros de dons. Elle vise à répondre à la collecte controversée en faveur de l'ancien boxeur Gilets jaunes, Christophe Détinger. Retrouvailles entre Emmanuel Macron et Angela Merkel le 22 janvier prochain pour signer ensemble un nouveau traité de coopération. Il visera à renforcer les liens entre France et Allemagne en termes de politique économique, étrangère et de sécurité entre autres. Il s'appuiera sur le traité de l'Elysée signé entre les deux pays en 1963. En football, coup d'envoi ce soir des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Lyon affronte Strasbourg. Le coup d'envoi, c'est dans une dizaine de minutes maintenant.
France Info. 20h, 21h, les informer, Jean-François Aquili.
Il est apparu amaigri, menotté, tenu par une corde autour de la taille pour la première fois depuis le début de sa détention. C'était le 19 novembre dernier. Eh bien, vous le savez, Carlos Ghosn a pu s'expliquer publiquement devant le juge Yuichi Tada du tribunal du district de Tokyo et clamer son innocence. Ce qui n'a pas convaincu Fabien Gache, il est délégué central CGT chez Renault. Il était l'invité de Marc Fauvel dans la matinale de France Info.
Malheureusement, je pense que ce qu'il dit n'apporte aucun éclaircissement, notamment sur les villas dont il aurait bénéficié et financé par Nissan via des filiales implantées aux Pays-Bas et qui ne sont pas sans lien avec Renault, je pense en particulier à RNBV. Il n'y a aucun éclaircissement sur l'emploi supposé fictif de sa sœur. Le problème dans cette affaire, c'est qu'on ne dispose d'aucun élément aujourd'hui, nous, en ce qui concerne les organisations syndicales, en ce qui concerne les administrateurs salariés, sur la teneur exacte de ce que l'on reproche, et je pense en particulier aux éléments que Nissan a communiqués à la direction générale de Renault, qui malheureusement reste totalement silencieuse.
Fabien Gache. Hélène Hamel, le PDG de Renault, c'était la nuit dernière, hein, démenti point par point les faits qui lui sont reprochés. Est-ce qu'il vous semble qu'il est quelque part présumé coupable ?
Présumé coupable, c'est un peu difficile de. Enfin, il est présumé innocent, c'est évident. Sinon, je vais faire taper par Thomas Clé.
Mais non, non violent.
Ce qu'on peut dire, ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que ça fait 7 semaines qu'il est enfermé, qu'on n'a pas pu entendre le son de sa voix. Et dans cette séquence, en fait, cette idée d'aller en parler devant les médias, c'est une opération quand même de communication organisée par ses avocats et ses communicants, avec la volonté. En fait, c'était une séquence assez organisée. Vous l'avez peut-être vu avec l'entretien de son fils dans le JDD dimanche. En disant mon père est combatif, donc il y avait l'idée de montrer un homme combatif devant les médias. Et on peut se poser la question du résultat de cette stratégie de communication, parce qu'au final, là, on entend en boucle la façon dont il s'est présenté, c'est-à-dire avec une corde autour de la taille, avec des chaussures vertes en plastique, il apparaît avec menotté. Je suis pas sûre que
vous
le message
dire qu'il
qui passe
dû
par cette image,
cette séquence.
Peut-être. En termes de communication, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne séquence. Je ne suis pas sûre que ça fasse basculer l'opinion publique, parce que ce qu'on voit depuis le début avec Carlos Ghosn, c'est quand même que peu de gens en France le défendent. Mais sûrement, il y a sûrement de bonnes raisons qui sont liées à toutes les polémiques et tout ce qu'il y a eu autour de son salaire. Mais ouais, quand on voit les salariés de Renault qui ont été interviewés régulièrement, il n'y en a pas un qui déplore la situation dans laquelle est M. Ghosn. Son ex-femme règle les comptes. Les pouvoirs publics sont très prudents. Il y a peu de patrons qui le défendent. Enfin, il y a eu Loïc Le Floch Prigent. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais donc, en fait, il est vraiment dans une situation difficile. Oui. Et cette séquence, elle devait, à mon avis, inverser. En tout cas, elle avait l'idée d'être impactante en matière de communication, et je ne suis pas sûre que ça envoie le bon message.
Thomas Clé, toujours, la présomption d'innocence, elle prévaut ?
En principe, mais c'est vrai qu'on est consterné par cette procédure pénale japonaise. Elle est moyenâgeuse, comparée aux exigences des garanties fondamentales de bonne justice et au procès équitable. Quelle que soit la sympathie ou l'antipathie qu'on ait pour Carlos Ghosn, ce qui lui arrive, d'un point de vue procédural, est vraiment extrêmement sévère, extrêmement douloureux. Moi, je crois qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à ce qui est dit ou ce qui est pas dit. Le délégué CGT qui dit il aurait pas, il s'explique pas sur ceci ou sur cela. Lorsqu'un homme est entravé, quand il comparaît, lorsqu'il est incarcéré depuis 2 mois, attendons d'avoir sa version des faits. Aujourd'hui, on a eu quelques éléments. D'ailleurs, les éléments ne portaient absolument pas sur la fraude fiscale. On lui reproche depuis le début une fraude fiscale. Et là, on a des éléments qui sont sur tout à fait autre chose, sur un abus de confiance, sur des montages financiers avec une joint venture dans les Émirats. C'est un dossier qui est confus, et comme tout dossier de cette nature, il faut avoir les deux versions avant de se faire un avis.
Et là,
on n'a qu'une seule version dans une procédure dont tout de même on a le sentiment qu'elle est faite pour aller obligatoirement à l'aveu. C'est une procédure sur la contrition. Si vous reconnaissez les faits, alors voilà, on vous libère. C'est pas comme ça qu'on règle, qu'on parvient à la vérité.
Cette séquence de communication, elle devait pas agir sur la procédure.
Je parle de la procédure. Moi, la communication, c'est une chose, mais
cette séquence-là où il a pris la parole, elle était plus, à mon avis, pour essayer de faire basculer l'opinion publique et faire entendre sa voix, que pour changer l'avis du procureur ou des magistrats japonais.
Oui, il faut rappeler quand même qu'il est toujours PDG de Renault, Marion Mourgue. Hein. La décision n'a pas changé, il est présumé innocent. Et c'est vrai ce que dit peut-être Thomas Clé, il faut attendre d'en savoir plus. D'ailleurs, je crois que dans le Figaro, le récit est très factuel, vous restez très à distance du sujet, vous le confirmez. Hein.
Oui, mais je suis d'accord avec Thomas Clé, parce que pour l'instant, on n'a vraiment qu'une seule version. Et ce qui saute aux yeux, c'est la difficulté de cette isolement, de cette isolation, enfin isolement plutôt, oui. Qui paraît très, en effet, très moyenâgeux, c'est le bon mot. Donc c'est plus ça, je crois, qu'on observe pour l'instant, puisqu'on a élément après élément, mais l'enquête ne fait que commencer.
Vous avez raison de le rappeler.
Pour les journalistes aussi.
Vous avez raison de le rappeler. Mathieu Niangot, le personnage Carlos Ghosn, ainsi entravé. Je sais que Hélène Hamel va me reprocher de revenir sur ces images, sans doute très, très négatives, qui relèvent plus du cinéma que du réel. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous, ce soir? Vous pensez que cet homme a droit aussi à un traitement plus équitable?
Je pense que toute personne a droit à un traitement équitable. On parlait tout à l'heure des gilets jaunes. Je suis aussi très choqué par la manière dont les choses se passent pour un certain nombre d'entre eux, hein, les comparutions immédiates, les choses comme ça. Et ça s'applique aussi pour Carlos Ghosn. Pour le coup, faut vraiment pas faire ces distinctions-là. Après, sincèrement, moi, j'espère vraiment, parce que au contenu des accusations qui sont portées, j'espère que c'est pas vrai, parce que vous vous rendez compte des sommes dont on parle. Si un PDG dans une boîte peut faire et s'évaporer 38 millions d'euros, parce que c'est ça dont on parle, en 5 ans, c'est que c'est parfaitement très grave du point de vue de la gouvernance.
Allez,
mais sur le point de vue humain, oui, forcément.
Attendons donc 2 mois, comme l'a dit Thomas Clé. Marion Mourglen du Figaro, demain.
Eh bien, on revient sur le grand débat et les inconnus de cette concertation inédite.
Merci à vous, Marion Mour. Merci, Hélène Hamel. Merci à Thomas Clé. Merci à vous, Mathieu Niangot, d'avoir participé à cette édition un peu bousculée par l'actu des informés de France Info. J'aurai le plaisir, pour ma part, de vous retrouver demain soir.